Actrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Marie-Lou Goyer, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime. Bonne nuit avec RTL.
RTL, avec vous toute la nuit.
RTL, il est 3h. 24 heures d'info, Julia Van Elst.
À la une, un dénouement dans l'affaire Kenji Girac. Le chanteur a changé sa version. Il dit maintenant avoir simulé un suicide après une dispute avec sa femme qui menaçait de le quitter. Longue conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan qui précise que lors de son passage à l'acte, le chanteur était fortement alcoolisé et positif à la cocaïne. Alors simulation ratée ou réelle tentative de suicide? En tout cas, l'enquête devrait être classée sans suite puisque ces deux motifs ne relèvent pas du pénal. Nous sommes à 3 mois des Jeux Olympiques et les mesures de sécurisation de la cérémonie d'ouverture se précisent. L'aménagement des quais de Seine commencera le 17 juin. Pour les ponts, ce sera à partir du 15 juillet. Le 18 juillet, donc une semaine avant la cérémonie d'ouverture, il ne sera plus possible de circuler dans la zone rouge, sauf dérogation. Et le périmètre de protection antiterroriste sera également étendu aux immeubles en bord de Seine, annonce du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Les JO toujours et pour les conducteurs du métro et du RER qui travailleront pendant les Jeux, une prime de 1600 euros leur est proposée par la RATP. Accord trouvé entre les syndicats et la direction de l'entreprise. Pour les agents de la SNCF, les négociations sont toujours en cours. À l'étranger, les États-Unis commencent à construire un port temporaire et une jetée en bord de mer à Gaza. Objectif que des navires ou des civils puissent déposer des cargaisons d'aide humanitaire et soulager ainsi la population gazaouie menacée de famine. Et puis aux États-Unis, 7 ans après la naissance du mouvement MeToo, la cour d'appel de New York annule la condamnation d'Harvey Weinstein pour viol et ordonne un nouveau procès. Pour la juridiction, des erreurs de procédure ont été commises durant le très médiatisé procès en 2020. Au terme duquel l'ancien producteur de cinéma avait été condamné à 23 ans de prison. Il avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2008 avec son film « Entre les murs » qui racontait le quotidien d'une classe d'un collège parisien. On apprend la mort de Laurent Cantet, le cinéaste était malade, il était âgé de 63 ans. En sport, un mot de tennis, Rafael Nadal se qualifie pour le 2e tour du tournoi de Madrid. C'est la dernière fois que le champion de 38 ans y participe. Rafael Nadal a expédié l'américain Darwin Blanche, âgé de tout juste 16 ans, en 2-7, 6-1, 6-0. Il affrontera au prochain tour l'Australien Alex de Minaur. La météo, le temps se dégrade. Au nord, un ciel perturbé, souvent nuageux avec des averses. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné avec du soleil et du vent. Les températures, elles remontent. Pas de gelée le matin. L'après-midi, il fera jusqu'à 14 degrés au nord et 19 degrés au sud. Et pour finir, les courses. Départ à Vincennes à 20h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 10, le 3, l'As, le 9, le 11. 11 et le 8, et puis l'outsider de RTL, c'est le 3, et il s'appelle Galion.
RTL, 24 heures d'info. Les grosses têtes sur RTL, Laurent Ruquier, 3h, 4h30.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait son grand retour dans l'émission. Après avoir fait Danse avec les stars, ouais. C'était notre bébé à nous. Et puis bon, il a grandi là-bas en dansant chaque semaine. Oui. Roman Dauduit.
Bonjour tout le monde.
Il est revenu avec du poil au menton.
Mais pas que.
Une grosse tête qui aime tellement l'opéra qu'elle n'utilise que les shampoings Garnier. Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui, jusqu'à la semaine prochaine, ne pense plus qu'à une ville qui s'appelle Bergame, Florian Gazan. On expliquera. Une grosse tête qui a fait de se barrer à La Rochelle une discipline olympique, Valérie Mérès. Une grosse tête qu'on surnomme parfois le Méli-Mélomane, Olivier Bellamy. Bravo. Et une grosse tête qui doit être souffrant puisque ce matin sur TF1, il recevait Chantal Goya et on l'a pas entendu chanter.
Si, j'ai chanté.
Christophe Beaugrand. Ah, vous avez chanté ?
Pandine, panda, petit ourson de Chine. J'ai chanté, je chantais Bécassine, c'est ma cousine et tout.
Ce matin, un lapin.
Oh non, on va pas.
Non.
Écoutez, il y a eu assez que cette émission sur laquelle je suis tombé, effectivement, ce matin, à l'émission de Bruce, tout ça. Je savais pas d'ailleurs lequel des deux pandas était le vrai.
Je lui avais dit à l'antenne, mais c'est vrai. Hein.
Ah oui.
Ah oui, il ressemble à un panda, il n'y a pas besoin de déguisement.
Ah, c'est ça hein, le problème.
Mais il a les poils noirs et blancs comme un panda.
Ah bah, vrai. Regardez les poils de Roman Dodu.
Mais oui, il a une petite chatte au menton, c'est tout mignon, regardez.
Bon bah je reviendrai plus jamais dans cette émission, c'est fini.
Moi je trouve qu'il ressemble pas à un panda mais à une petite belette.
Moi une petite belette.
Oui, une petite belette.
Une loutre éventuellement.
Une petite fouine.
Comment ça se fait que ça a poussé pendant que vous étiez là-bas? Ils vous donnent de l'engrais à TF1?
Non mais j'étais avec une danseuse qui voulait me faire prendre un peu confiance en moi. Elle m'a dit mais laisse pousser la barbe. Et au final il y avait que le bouc qui est sorti. Mais
Non mais tu es devenu un homme donc ouais. Pendant cette aventure.
Mais il a mué, il a mué en plus. Il a une voix.
Bah, vous feriez bien d'y aller.
De bariton.
Non mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans avec les stars là,
écoute,
dans les
c'est coulisses. Génial. Il y a des tangos argentins, des petites salopes, il y a tout ce qu'il faut quoi. On passe des moments formidables.
Ah t'as passé dans les coulisses.
Est-ce que c'est pas vous qui seriez je pose la question parce qu'il y a beaucoup de grosses têtes qui ont fait danse avec les stars à travers les saisons. Johan Rioux, Ariel Dombal, Titoff, Jean-Marie Bigard, j'en oublie sûrement. Est-ce que c'est pas vous qui seriez pas allé le plus loin de tous?
Écoutez, j'avais qu'un seul objectif, c'est être la grosse tête qui va le plus loin de toutes les grosses têtes, et je crois que c'est le cas, c'est moi qui suis arrivé en demi-finale. Ah, je suis la grosse tête qui suis allée le plus loin.
Bravo.
Même qu'Ariel Dombal.
Ah bah oui.
Oui, mais Ariel pense encore qu'elle a gagné l'émission de toute façon, donc.
Oui. C'est-à-dire qu'elle a un soir été la meilleure, le troisième prime, je crois, et du coup, elle en est restée là. Elle pense qu'elle a été la.
Elle pense qu'elle s'est arrêtée avec elle, en fait.
Voilà. Non, écoutez, alors, honnêtement, je le dis aussi à toutes les grosses têtes, c'est vraiment une émission que je conseille. Je sais qu'elle peut faire peur.
Ah non, pas du tout. Il y a l'air d'avoir une ambiance. Franchement, ça, pour détruire une carrière, c'est formidable.
Il a raison.
Mais vraiment, moi j'ai.
Et alors, vous avez des nouvelles de notre copine? Parce qu'il y a une deuxième grosse tête aussi.
Natacha Saint-Pierre?
Non, Christina Cordula quand même.
Ah oui,
elle a été vite éliminée, Christina.
Mais oui, mon chéri, je suis parti vite parce que j'ai mal à la côte.
J'ai mal à la côte, chéri, c'est incroyable. Dans un instant, j'ai pas magnifique, j'ai pas tenu les trois semaines.
Ah non, moi j'ai été surpris.
Non, elle a.
Surpris par quoi?
Elle danse pas très bien.
Ah bah non.
Mais non, elle est plus déchirée.
Mais c'est pour
d'accord.
ça que tu veux que je le fasse, c'est pour que je me casse une côte. Non, parce qu'il m'a conseillé de le faire. Il dit qu'on peut perdre 20 kilos.
Bah, il vaut mieux pour les porter.
C'est comme j'aime en fait.
C'est vrai que j'ai eu la trouille pour vous parce que déjà que vous étiez pas bien épais, je me suis dit mais on va pas le retrouver quand il va ressortir de là.
Ah oui. Mais attendez, moi à un moment j'ai fait un porté que j'ai raté pendant une des émissions. Je me suis niqué la colonne vertébrale, les lombaires étaient complètement foutus, mais j'ai jamais vu autant d'ostéo de toute ma vie quoi.
Ah oui.
Ah ouais, c'est...
Ah ouais, ça donne vraiment envie de faire cette émission.
Non,
c'est ça. Tu veux me tuer.
Mais non, c'est fatigant, c'est épuisant, on se casse des trucs, mais je vous assure qu'on apprend des trucs sur soi. Moi je voilà, j'ai appris que.
Qu'est-ce que vous avez appris sur vous?
Bah que le book ça me va vraiment pas. Hein.
Bah, j'espère en tout cas que vous avez eu le temps de lire pour pouvoir répondre aux questions, parce que ça je sais pas s'il y aura du changement de ce côté-là, c'était pas bien brillant avant, alors on va voir.
T'as bien fait de revenir.
On va voir si, par exemple, vous avez retrouvé l'auteur de cette première citation, c'est assez facile. Hein. La première, c'est toujours du classique pour Nathalie Girard, qui habite Bretteville l'Orgueilleuse. Mmh. C'est dans le Calvados.
Oh là.
Qui a dit « Dieu est peut-être éternel, mais pas autant que la connerie humaine ».
Coluche ?
Coluche, non.
C'est mort, Jean-Yann ?
C'est mort, non. Oui.
C'est mort, et c'est de l'époque de Coluche.
Pierre Desproges.
Pierre Desproges, bonne réponse de Florian Gazan. Attention, une citation qu'on connaît bien, mais souvent elle est attribuée à tort et à travers, à droite, à gauche, j'ai envie de dire, et on n'en connaît pas l'auteur, celui qui fut le premier à la dire. C'est pour Laurent Douvier, qui habite Argenteuil, qui fut le premier à dire « Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n'en laisser aucun doute.
» C'est français ?
Ce n'est pas français.
C'est américain ?
Ça a été traduit, en fait.
Est-ce que c'est mort ?
Et c'est américain, oui, mort assassiné, même.
Oh.
Kennedy,
JFK.
Pas Kennedy, mais on n'est pas loin.
Lincoln.
Abraham Lincoln, ah, oui. Bonne réponse collective. Pas d'ailleurs dans le même genre pour Patrick Louvier qui habite Mers-sur-Indre, c'est dans l'Indre, qui a dit « La plus grande leçon de la vie, c'est que les imbéciles ont quelquefois raison.
» C'est français ?
Alors non, c'est pas français.
C'est,
non plus.
C'est belge ?
Anglais, c'est
anglais.
Anglais.
Ça, c'est britannique.
Britannique, hein, c'est ça.
Oscar Wilde ?
Pas Oscar Wilde.
Churchill.
Attendez, j'ai entendu un truc, j'ai entendu une voix d'adolescent.
Churchill
Moi, j'essaie de tenter des trucs.
Vous avez dit quoi ?
Churchill.
Et c'est la bonne réponse.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Ben, bah, voyez que ça vous a servi dans avec
bah, c'est
stars.
Ça. Je vais peut-être toujours pas faire de portée, mais j'ai deux, trois bonnes réponses.
C'est bien, parce que c'était effectivement Winston Churchill. Pour Charlie Marr, qui habite à Rennes, qui a dit « L'expérience est un peigne que nous donne la vie quand vous êtes devenu chauve. »
Pascal Obispo.
C'est joli, je trouve.
Ouais, c'est très joli.
Ouais, c'est joli.
Alors ça, c'est français.
Alors ça, c'est très français.
Jean-Louis David.
C'est quelqu'un qui avait perdu. C'est quelqu'un qui avait perdu ses cheveux et
Choron.
Non, et qui du fait de sa naissance, et d'ailleurs je l'ignorais ou je l'avais oublié, était de nationalité argentine.
Mais ça se voit pas et son nom ne le laisse pas supposer.
Alors vraiment
non
là, je suis en train de vous donner vraiment
Paul Claudel.
Une indication qui est
Édouard Philippe.
Ne sert à rien.
Édouard Philippe, non. Non.
Est-ce que alors, c'était un écrivain ?
Écrivain, non. Mais il était né à Buenos Aires.
D'accord.
Ah oui, c'est pas un metteur en scène ?
Metteur en scène, non.
Acteur ?
Acteur, oui. Son fils est metteur en scène, mais pas lui.
Il est mort, donc ?
Ah, non. Il est mort. Ah, oui. Le fils, non, mais lui, oui.
Bernard Blier.
Bernard Blier, oui. Bonne réponse de Valérie Mérès. L'acteur des Tontons Flingueurs.
Il était né en Argentine,
eh bien, oui.
Bernard Blier. Ah,
ça, on peut pas imaginer qu'il était argentin. Oui, il avait même la double nationalité, française et argentine, parce qu'effectivement, il est né à Buenos Aires en 1916, et c'est bien Bernard Blier, qui n'avait plus beaucoup de cheveux, il faut le reconnaître, qui a dit « L'expérience est un peigne que vous donne la vie quand vous êtes devenu chauve ». Je trouve que c'est une très, très jolie formule. Pour Christophe Cabaret, qui habite Mauléon, qui a dit «
Elle voulait jouer Cabaret ».
Quoi ? Ça y est, il a vu Chantal Goya, il s'est enroulé lui.
C'est Patricia Cass.
Patricia Cass et toi aussi. Hein.
C'est ça. Mademoiselle chante le blues.
Ah non, non, non.
Elle a du gospel dans la voix.
Pour Monsieur Cabaret.
Mais elle y croit.
Monsieur Cabaret qui habite Mauléon, qui a dit « Je ne dis pas que cette femme est grosse. Je dis simplement qu'elle aurait été plus à son avantage si elle avait été photographiée par satellite.
» Oh, c'est très drôle,
bah, c'est Coluche.
Non, c'est pas Coluche.
C'est français.
C'est pas français.
C'est Gueluc.
C'est pas Gueluc.
C'est américain.
C'est américain.
Stephen Wright.
C'est Stephen Wright. Ah, bon. Bonne réponse de Florian Gazan. Et Florian Gazan, je profite de votre mémoire pour glisser une citation supplémentaire à l'attention de Monsieur Gourcuff, qui habite ici les Moulineaux, qui a dit aux enterrements, les Tahitiens portent des chemises à fleurs fanées.
Oh, c'est joli.
C'est poétique.
Henri Salvador.
Avouez que c'est drôle.
Oui, bah, c'est mignon. Kersauzon.
C'est pas Kersauzon.
Un écrivain.
Non, c'est quelqu'un qu'on cite très rarement. Et si je profite de la présence de Monsieur Gazan pour donner cette citation, c'est parce qu'à mon avis, c'est le seul qui peut se rappeler du nom de celui qu'on cite rarement.
C'est Vincent Audiquet.
Et c'est Vincent Audiquet. Bonne réponse de Florian Gazan. Une première question d'actualité pour Laura Jourquin qui habite Argenteuil. Question qui fera plaisir à tous nos auditeurs portugais. Je profite de l'absence de Monsieur Toen. Il sera avec nous à Montluçon, Sébastien Toen. Mais ça tombe bien, c'est aujourd'hui les 50 ans de la révolution des œillets. Évidemment, la fin de la dictature portugaise. Le coup d'état militaire du 25 avril 1974 est célébré aujourd'hui. Toute la communauté portugaise qui nous écoute est évidemment touchée par cette anniversaire, cette révolution des œillets, 50 ans, jour pour jour aujourd'hui, 25 avril, il y a même un célèbre pont hein, à Lisbonne qui s'appelle le pont du 25 avril 1974, et en lisant toute la presse, parce que évidemment il y en a dans tous les journaux aujourd'hui, c'est la une de l'UMA, c'est une page entière dans le Figaro, des conseils de livres, mais j'ai appris quelque chose que j'ignorais encore, parce que moi j'étais persuadé que la révolution des œillets au Portugal il y a 50 ans, c'était la fin de la dictature de Salazar, le dictateur El Doctor et Salazar. Ouais. Mais pas du tout, il était déjà mort, Salazar, en 74. C'est quelqu'un d'autre qui était au pouvoir quand il y a eu la révolution des œillets.
Ah, c'est Giscard en 74. Ah, peut-être pas au Portugal.
Je parle au Portugal.
Ah oui, d'accord, pardon.
Et là, la, voilà la question difficile, parce que ce n'était pas Salazar. Salazar est mort, lui, en 1970 à Lisbonne.
Ah, Austerlitz.
Pouf faire tout... Du Nord.
Du Nord. Nord, du Nord. C'est vrai qu'il est mort sans crier gare.
C'est pas Marcelo Caetano.
Excellente réponse. De Roselyne Bachelot. Alors là, bravo Roselyne.
Oui, bravo, bravo, bravo.
Parce que c'est vrai que peu de gens le savent. Tout le monde pense que la révolution des œillets, c'est la fin du dictateur Salazar, alors qu'il était mort déjà depuis 4 ans. Et il avait eu un successeur qui s'appelait effectivement Marcelo Caetano. Bravo Roselyne. D'ailleurs, comment on appelle la révolution des œillets? Et ça, c'est une deuxième question assez difficile, je le reconnais. Comment on appelle la révolution des œillets en langue originale?
La révolution des œillaches?
Non. Tiroli tiroula?
Non. Parce que la révolution des œillets, c'est nous, ça, en France. Ouais, mais bah oui, au Portugal, ils disent pas révolution
la
des œillets.
La valise en carton?
Ah non, non, non.
Et vous êtes sûr qu'on connaît ce mot en Portugal?
Ah bah, ça, c'est une question de culture, vous voyez.
Révolution?
Non, non, non.
Kenji Girac?
Non.
Est-ce que c'est le mot œillet en portugais qu'on cherche?
Ah bah, un peu, mais en fait.
Ah, un peu, ah, vous ne savez pas.
C'est pas une fleur chez eux?
C'est pas que je ne sais pas, c'est que justement j'ai vérifié. Et quand on regarde le mot tout seul, ça ne veut pas dire œillet, ça veut dire point noir, vous voyez?
La révolution du chebom?
Non, non, non.
Pointe Negros?
Non, 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 non.
Punta Negra?
Non, non plus, non, non.
Ça ressemble à point noir un petit peu?
Alors ça ne ressemble pas à point noir, non, non, ah non, bon. Non.
Ça ressemble à comédon.
Et effectivement, c'est révolutionnaire.
Clérasilo
Exomedino.
Je sais pas comment on dit révolution.
Aknesh.
En portugais, ça s'écrit révolus, C-A-O, vous voyez.
Révolution.
Voilà. Révolution, dos, dos.
Acnéo juvénile.
Et effectivement, nous, on a traduit ça par révolution des œillets. J'imagine que c'est ainsi qu'on appelle les œillets au Portugal. Sauf que quand je suis allé chercher la traduction de ce mot, bah, ça m'a donné point noir et pas œillet. Alors, peut-être que c'est nous les Français qui avons. Eh ben oui, peut-être. Allez,
moi, j'ai fait espagnol LV2, j'y arriverai jamais.
Peut-être qu'il y a des Portugais dans la salle, ils sauront nous aider quand vous aurez trouvé la réponse.
Ou s'il y a des gens qui ont des points noirs.
Ça, il y en a.
Ah ben, oui, maintenant, plein. Je comprends pourquoi faut pas offrir des œillets à une actrice au théâtre.
Ah, c'est vrai que c'est pas
bien.
Parce que si vous lui offrez des œillets, elle se tape des points noirs après, c'est chiant.
Mais c'est drôle, on trouve plus du tout d'œillets chez les fleuristes.
Bah... C'est pas une fleur, c'est une fleur d'enterrement, les œillets.
Ouais, ouais. Un peu, ouais.
Alors, pas bonne
on dirait un chrysanthème qui a pas réussi sa carrière.
Moi, je sais plus à quoi ça ressemble.
C'est joli, ça, monsieur Gazon.
Bah, c'est un peu
je vais
frippé.
Regarder, un jour, on fera une citation. L'œillet, c'est un chrysanthème qui n'a pas réussi sa carrière. Qui a dit ça?
Ah, oui, j'espère qu'on gagne.
Jean-Luc Gazan. Bonne réponse.
En 20 ans, c'est le premier truc bien que vous avez dit, monsieur Gazan.
Ben, rendez-vous dans 20 ans.
Non mais c'est joli, je trouve. Ouais,
merci.
Ah, vous me surprendrez toujours, Florian.
Vous voyez qu'il a du talent.
J'ai bien fait d'attendre.
Alors avec ça, on a toujours.
Non mais on n'aura jamais, ce mot, Laurent.
Oui,
on
va pas inventer un mot. Ça va être un truc à 300 euros.
C'est
ça.
Dans tous les journaux aujourd'hui.
C'est ça le point noir.
C'est le 50e anniversaire de cette révolution des œillets.
Mais déjà, le mot portugais n'est pas dans tous les journaux français.
Déjà bravo, parce qu'effectivement, vous avez trouvé le nom de celui qui avait succédé à Salazar. Mais c'est lui qui était au pouvoir.
Voilà.
Alors, il était président du Conseil des ministres du Portugal jusqu'au 25 avril 1974. Il a quand même dirigé le pays pendant 5 ans, vous voyez.
Ben oui.
Jusqu'à... Macron, il s'est fait fouetter par des œillets, alors?
Les manifestants avaient mis des œillets dans le canon des fusils, c'est pour ça qu'on a appelé ça la révolution
absolument,
des œillets.
Absolument, mais ça n'est pas ma question, merci Ariel.
Ah oui, enfin, moi je donne ma réponse.
Non, mais c'est intéressant.
Et puis je vous emmerde, là.
Oui, ça faisait soliflore, quoi.
Non, ma question, vous l'aurez compris, c'est comment on appelle en portugais la révolution des œillets, bah voilà.
Oui, Revolução dos.
Si vous aviez un peu lu la presse aujourd'hui, Revolução dos quoi, justement, c'est ça la question.
C'est en os. Est-ce que ça se termine en os?
Oui, ça se termine en os.
Consonne.
Bon. En os.
Voyelle.
Est-ce qu'il y a beaucoup de syllabes avant le os?
On va donner 300 balles et puis voilà. Hein.
Oui, c'est ça. Oui.
Écoutez, il y a deux syllabes puisque vous me demandez, je vous
Flores.
Réponds. Flores, non.
Non, c'est en os.
Non, non.
Dos Santos.
Comment vous dites?
Dos Santos.
Ah non, Dos Santos.
Non, ça c'est mon plombier, ça c'est mon plombier. Non mais nonos.
Non, écoutez, soyez gentils.
Bolos.
Dos Botos.
Bolos vous-même.
Nikos, Nikos, Nikos.
Non, Nikos non plus, non. Et Mikos encore moins. Enfin, écoutez, c'est important de connaître quand même le nom de la révolution.
Oh, oui.
On a, capital.
On a beaucoup, quand même beaucoup de Portugais qui nous écoutent.
Petos.
Comment vous dites-vous?
Petos.
Qu'est-ce qui lui arrive? Il a envie d'aller aux toilettes. Il a envie d'aller aux toilettes, c'est pas grave.
Il est constipé.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Désolez-le. Bah, il se fait plutôt jeune, il faut qu'il aille aux toilettes après une demi-heure d'émission.
C'est le masculin de pétasse.
300 euros, bah alors écoutez, là, tant mieux pour notre auditeur, puisque la première réponse fut assez rapide avec Marcelo Caetano. C'était une question subsidiaire sur cette révolution des œillets au Portugal. Est-ce qu'on a des spectateurs portugais ou d'origine portugaise? Regardez, regardez.
Une tentative de portugais.
Alors, je vais aller la voir.
Pour 100 euros, de quoi se payer un bon cosido et une bacalao à brasa.
Bon, alors, bom dia.
Bom dia.
Quel est votre prénom?
Ida.
Ida, quelle est votre réponse?
Kravos.
Comment vous dites?
Kravos.
Kravos. Et qu'est-ce que ça veut dire, Kravos?
Eh ben, point noir. Non, ça veut dire les deux.
Ça veut dire point noir et œillet.
Ouais, ouais, ouais.
Les
voilà.
Deux en même temps. Ouais, alors. Ça... Eh ben, bravo, vous gagnez 100 euros.
Merci.
C'est bien là. Révolution dans Kravos.
Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier, 3h, 4h30.
RTL.
Les grosses têtes répondent aux auditeurs.
Alors, nous avons maintenant Clément qui va être le premier auditeur à intervenir après s'être inscrit sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Enfin, plus que vous inscrire, vous êtes carrément manifesté. C'est le but de cette adresse des grosses têtes sur rtl.fr. Bonjour Clément.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, c'est le public.
Bonjour, le public vous souhaite un...
Hola.
Le public vous souhaite un bon anniversaire, puisque je crois que c'est votre anniversaire aujourd'hui.
Tout à fait.
Il a quel âge?
40 ans.
Il est jeune.
40 ans.
Un petit gamin.
Et 40 ans, et il voudrait évidemment une montre RTL comme cadeau, j'imagine.
Ben bah oui, parce que ça fait exactement un an que vous m'aviez promis déjà une montre RTL.
J'adore les auditeurs.
Ça ne suit pas.
Comment ça se fait, ça, que vous n'ayez pas reçu? Alors, pour vos 39 ans, je vous avais promis une montre pour vos 39 ans.
Et ben,
voilà, mais je vous avais dit quand tu seras grand. Je vous promets que vous la recevrez avant vos 50 ans, Clément.
Merci. Et du coup, si vous avez un vieux stock d'almanach, vous pouvez les utiliser pour caler la montre dans le colis.
Il est drôle, Clément. Cyril, maintenant. Bonjour, Cyril.
Bonjour, Laurent.
30 ans que vous nous écoutez.
Ah oui.
Ça a commencé avec mes parents, oui.
Ah oui, donc quand même, vous n'êtes pas si vieux que ça, alors. Et vous nous écoutez un peu plus depuis une dizaine d'années, dites-vous.
Exact, oui.
Là, vous faites un convoyeur en ce moment.
En un seul mot?
Voilà, convoyeur d'automobile, provisoirement.
Un convoyeur, ça peut aller avec un exhibitionniste abruti.
C'est ça, exactement.
Et c'est en convoyant que vous nous écoutez.
Voilà, c'est ça. Je m'amuse, si je puis dire, à régler les automobiles que je convoie sur votre fréquence pour pouvoir vous écouter.
Ah, parce que c'est bien, ça.
Ah, ça, c'est une très bonne idée.
Ah oui, mais continuez comme ça.
Convoyez.
Mais mettez RTL en toute présélection, la 1, la 2, toutes les radios.
Ça.
Hein.
Ah, ça, j'évite, faut pas exagérer.
Ah, bah non.
Quand le client reprend sa voiture, il a RTL.
Mais attendez, vous voulez vraiment une montre RTL? Il faut mettre RTL.
Pourquoi pas, ou un almanach, si ça peut se faire.
Ah bah écoutez, un almanach RTL, c'est parti, parce que la montre, on n'est jamais sûr.
L'almanach, vous le mettrez dans la boîte à gants. Hein.
Merci pour votre prosélytisme, Cyril. Stéphie, maintenant. Bonjour, Stéphie.
Bonjour, Monsieur Ruquier. Bonjour, les grosses têtes et les auditeurs.
Alors, Stéphie, c'est comme Cyril, c'est sur son lieu de travail qu'elle nous écoute, mais elle, c'est un peu plus embêtant, n'est-ce pas, Stéphie, puisque vous êtes directrice d'un crématorium.
Oh, exactement.
Ah oui, mais
provoque quelques moments de gênance.
Ah, vous avez besoin qu'on vous remonte le moral, c'est pour ça.
Vous imaginez un peu.
Je peux vous remonter le moral, moi, si vous voulez.
Ah non, mais c'est incroyable.
Cérémonie.
Vous écoutez les grosses têtes pendant que les familles sont en deuil dans le crématorium.
Exactement. Donc forcément, quand les familles arrivent et que je vous écoute, ça provoque quelques petits moments de gênance, on va dire.
Ah bah je comprends.
Ah bah ouais, ça mêle peu. Mais c'est pas tout à fait la même ambiance, quoi.
En fait, vous accueillez nos anciens auditeurs, quoi. On vous les repris, là.
Non mais enfin, vous devez écouter avec un casque. Vous n'imposez quand même pas aux clients en deuil les grosses têtes pendant qu'ils sont en train d'attendre la crémation.
Eh bien, si.
Ah ouais?
Mais c'est pas... Ils arrivent dans mon bureau, il y a les grosses têtes, effectivement, tout mon ordinateur en replay.
Non, mais c'est dans le bureau, c'est pas dans le lieu de la cérémonie.
Non,
voilà,
dans mon bureau, effectivement.
Voilà. Ah, ah, est-ce que vous leur demandez le contenu du cercueil RTL?
La valise est plus grosse.
Ah non, mais là, il fallait pas dire ça, parce que j'espère que vous êtes votre propre patronne, parce que si vous avez des supérieurs, vous allez vous faire cramer. Enfin,
non, non, c'est pour une collectivité, effectivement, s'ils le savent, bon, ils comprendront qu'effectivement, on a besoin d'un petit peu de joie de vivre et des choses qui nous font...
Bah, je comprends ça, et je vais vous donner une montre RTL pour bien vérifier que le temps de cuisson est idéal. Elisabeth, maintenant, bonjour Elisabeth.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public.
Alors,
bonjour,
vous voulez vous adresser à Monsieur Bellamy, vous, Elisabeth.
Elisabeth, voilà. Très joli prénom, Elisabeth.
J'ai entendu la semaine dernière que Monsieur Bellamy disait qu'il n'avait pas de répartie, qu'il pensait qu'à la semaine suivante. Voilà. Alors, il y a une expression que j'aime bien qui dit que la répartie, c'est ce à quoi on pense quand on est reparti.
Oh, joli. Ah. Moi, j'appelle ça l'esprit d'escalier. Vous savez, c'est voilà.
Ah, c'est un dialogue intéressant.
Vous savez quoi, revenez la semaine prochaine tous les deux. Parce que pour l'instant, c'est pas passionnant, passionnant.
Mes camarades prennent l'ascenseur et moi, j'ai l'esprit d'escalier. Qu'est-ce que vous voulez?
Donc, voilà.
Oh, vous êtes drôle. Quel joli duo, Elisabeth et Olivier.
C'est un peu les Shirley et Dino de,
ah, le spectacle
de 2024, vous voyez.
Faites quoi dans la vie, Elisabeth?
Humoriste.
Moi, je suis mosaïste.
Ah. Ah oui,
voilà, on a une mosaïque d'auditeurs, tous très différents les uns des autres, comme pour les grosses têtes. J'aime la mosaïque de mes grosses têtes, et Monsieur Bellamy n'est pas là pour avoir de la répartie ou pour être drôle. Il est là pour qu'on se foute de sa gueule. Non, il est là parce que c'est le spécialiste de la musique.
Aussi.
Ben oui, vous aussi, Elisabeth. De toute façon, on est là pour se vanner, on est là pour rigoler, pour s'amuser et se détendre dans ce monde cruel, n'est-ce pas, Elisabeth?
Exactement.
La Poste va vous envoyer une montre.
Mais Elisabeth.
La montre, la Poste me l'a déjà apportée.
Ah,
et ben on vous envoie de la répartie par Colissimo.
On est rassurés.
Qu'est-ce qu'on peut vous offrir alors?
Ben de la répartie.
Donc, je ne sais pas si vous avez un mug
et ben
ou
voilà.
Un almanach.
Eh ben, un mug. Bien. Allez, un mug. Pour vous, ce sera un mug, Elisabeth. Et on passe à Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Bonjour
Laurent. Laurent, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous nous écoutez, je peux même dire vous m'écoutez alors depuis France Inter.
Ben oui, moi je suis fidèle, j'ai commencé avec France Inter et j'ai atterri aux grosses têtes en passant par Europe.
Bah, il m'est arrivé la même chose.
C'est fou, hein? Quelle coïncidence!
Et à l'époque, dites-vous, vous vous trouviez jeune par rapport aux intervenants, c'est ça?
Ben oui, c'est ça. Comme j'étais tout jeune et que les intervenants mécaniquement étaient beaux, un peu plus vieux que moi.
Et oui.
Et maintenant, c'est l'inverse.
C'est pas mon cas, alors.
Ben, c'est vrai que Romain Dodu, quel âge il a, Romain, d'ailleurs?
Eh ben, 25 maintenant.
C'est un peu notre petit Robinson à nous, vous voyez, Romain Doduic. C'est le plus jeune de la bande. Vous aimez bien les jeunes, quand même, Laurent?
Oui, bien sûr. Bah, oui. Puis la valeur n'attend pas le nombre des années.
Mais
donc,
c'est ça.
Tout à fait.
Alors, écoutez, voilà. Vous avez de la répartie, même si ce n'est pas la vôtre. Bravo, Laurent. Vous méritez bien une montre RTL.
Pour regarder le temps qui passe.
C'est pas vous le plus jeune, Doduic?
C'est pas, pas des grosses têtes, c'est Paul,
c'est
le plus jeune.
Ah, c'est Paul Elkarat le plus jeune.
Mais il danse moins bien. Hein.
Ah, faudrait essayer, Paul, à danser avec
ça. Ah ouais, c'est pas drôle.
Ça aurait de la gueule.
Des jeunes, des vieux, on aura tous les genres de grosses têtes à Montluçon. Demain soir, nous serons à Montluçon. Vous entendrez l'émission lundi, mais c'est à 19h demain, au théâtre Gabriel Robin, que mes grosses têtes, Sébastien Thoen, Liane Folie, Valérie Mérès. Faites le voyage, Valérie.
Oh, oui!
Jean-Phi Janssen, Franck Ferrand et Az. Ce sera le plus jeune, Az, pour le coup, de toute la bande. On sera à Montluçon demain soir à 19h. Et à cette occasion, je tiens à rappeler qu'il vous reste 24 heures seulement pour vous inscrire pour la super valise. C'est pas à vous les grosses têtes que je m'adresse, c'est à nos auditeurs. 15 000 euros cash à gagner dans la super valise. Il suffit de vous inscrire au 74 900 en envoyant le mot valise par SMS. Attention, seulement 4 SMS maximum par personne. 75 centimes le SMS. Et évidemment, tous ces centimes accumulés nous permettront de vous offrir 15 000 euros cash demain pour la super valise à Montluçon. Merci Laurent.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Valérie Mérès, Roselyne Bachelot, Romane Doduic,
oui,
Christophe Beaugrand, Florian Gazan et notre mélomane Olivier Bellamy. Oh. J'aurai des questions musicales pour vous, monsieur Bellamy, aussi pour Mme Bachelot, d'ailleurs. Mais d'abord, on va commencer par quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, Nathanaël Gavant. Et Nathanaël Gavant, depuis hier, se fait un peu, il faut le dire, harcelé sur les réseaux sociaux. On dit qu'il n'a pas assez bougé, Nathanaël Gavant. Mais pour quelle raison ?
Est-ce quel rapport avec la musique ?
Ah non, il n'y a aucun rapport avec la musique.
Ah d'accord, ok.
Oui, si vous n'étiez pas sur votre téléphone. Si vous suiviez un peu, Bachelot.
Donc on cherche pourquoi sur...
C'était comme ça au Conseil des ministres ?
Non, heureusement. On s'emmerdait quand même beaucoup plus.
Est-ce que j'ai dit que ce serait pour tout à l'heure les questions musicales. Cette question-là n'a rien de musical. Mais c'est vrai que Nathanaël Gavant n'a pas assez bougé d'après les réseaux sociaux.
Il était dans Danse avec les stars.
Ah, il n'était pas dans Danse avec les stars.
Est-ce que c'est sportif?
Sportif? Alors oui, on peut considérer, oui, c'est sportif, oui.
C'est un rapport avec le Moulin Rouge?
Pas du tout.
Il n'a pas assez fait de pas dans la journée?
Ah, vous faites ça, vous comptez vos pas dans la journée?
Moi, je regarde le soir, oui.
Et il y a disons qu'aujourd'hui, 15.
Oh, ça pas. On peut gagner de l'argent maintenant en faisant des pas. Il y a des applications où tu t'inscris, puis si tu fais 10 000 pas dans la journée, bah, tu peux gagner 3 centimes, puis à la fin de l'année, ça te fait 25 balles, quoi. Je dis ça pour les grosses têtes qui font pas grand chose à part l'émission, ça peut toujours servir.
Alors, est-ce que
j'arrive plus à 8 000 qu'à 10 000.
Ah, bah, avec 8 000, tu peux t'acheter une baguette dans 8 ans.
Mais 10 000, c'est trop. De toute façon, c'est 6 000.
Bon, alors, ça a rien à voir avec ça.
Rien à voir avec le nombre de pas.
Alors, est-ce qu'on peut répondre à ma question?
Bien sûr. Non, toujours pas musical.
Est-ce qu'il est français?
Ce n'est pas musical, Roselyne. Alors oui, il est français. Il est français. Oui, il est français.
Est-ce que
étrangère.
Est-ce qu'il passe à la télévision de temps en temps, ce monsieur?
Là, on l'a vu beaucoup à la télévision hier, mais non, il passe pas si souvent. Mais
est-ce que c'est un rapport avec Kenji Girac?
Du tout, du tout, du tout.
Alors on l'a vu beaucoup hier.
Oui, on l'a vu hier.
Est-ce que ça a un rapport avec son poids?
S'il
n'a pas assez bougé après.
Ah non.
J'ai pas mangé, bougé, quoi.
Ça a un rapport avec les Jeux Olympiques?
Du tout.
Est-ce que c'est lors d'une compétition sportive qui a été diffusée hier à la télévision qu'on l'a vu?
Alors, ça n'a pas été diffusé à la télévision, mais on a vu des extraits, effectivement.
Ah, est-ce que c'est pas le match avec Macron?
C'est le gardien de but.
C'est le gardien,
celui qui a pris le pénalty de Macron.
Il n'a pas bougé pour arrêter le ballon.
Il n'a pas bougé pour laisser le président de la République marquer.
Le faillot.
Bravo, bonne réponse collective. Et oui,
c'était le match ridicule.
C'était
à plaisir.
Un match caritatif qui
pour
se passait
à Variété Club.
Ouais. À plaisir, voilà, c'était pour les pièces jaunes. Alors on a vu le président de la République s'entraîner sur le terrain, s'échauffer.
Ah oui, il était magnifique.
Il paraît qu'il a fait, comment ça s'appelle, un petit
saltarello.
Jeté.
Je sais pas, vous faites des signes bizarres avec la main là, je sais pas ce que vous voulez dire par là.
Quand on fait ça,
un escalier en colimaçon,
quand on fait ça,
c'est Jamel.
Non mais ça c'est comme ça avec les pieds.
Une branlette.
Non. Des ongles, il a fait des ongles.
Vous faites talonnade.
Il a un tacle.
Non, une talonnade.
Ah,
il a une talonnade. Il a aussi taclé.
Oui, il a taclé. J'ai vu ça.
L'ancien, il avait une talonnette. Il y avait un autre président qui avait une talonnette.
Oui, lui, il a fait une talonnade.
Quelle bonne vanne. On peut l'applaudir.
Bravo,
monsieur Bellamy. Qui repart avec une montre RTL, d'ailleurs.
Bellamy, on vous a dit pas d'humour.
Mais non, il est très bien.
Il a fait l'école Barbier du rire. Il y en a ici, c'est la culture. D'autres, c'est l'humour.
Mais oui, mais la culture, je suis pas sûr.
Qu'est-ce que tu fous là?
Lui, c'est l'alcool, voilà.
La talonnade, effectivement, faite par M. Macron, a beaucoup fait parler. À un moment donné, il a aussi, effectivement, taclé. C'est une petite vengeance, hein. Il n'a pas dû aimer ça. Il a taclé un joueur qui lui avait fait un petit pont.
Ah oui, elle a dit Diouf.
Voilà, un petit pont, c'est quand on fait passer le ballon entre les jambes de son adversaire.
Oui, on a le droit.
Ce qu'on peut pas faire à Gérard Larcher parce que ça touche les cuisses.
Mais quand même, ça n'a pas dû lui faire plaisir au président. Et là, pour le coup, ce joueur-là, lui, il a été gonflé. Il a été culotté de faire ça au président de la République.
Ah oui, non, bah oui, il n'a pas respecté les.
À un moment, il va se retrouver avec un contrôle fiscal. C'est le jeu, que ce soit le président ou pas. Faut mettre des petits ponts.
Le gardien de but. Justement, le gardien de but.
Faut mettre des coups de boule, enfin, faire le football, quoi.
Alors, je peux comprendre en même temps le gardien de but parce que dans la vie, il est policier. donc il a eu peur. Il a eu peur d'être muté, je pense. Mais enfin, quand même, c'est vrai que quand le président de la République tire effectivement ce penalty, il bouge même pas, quoi, le gardien.
Non, mais il bouge pas, et surtout, le tir, il va à 2 à l'heure. C'est-à-dire que c'est même pas. C'est une frappe, on appelle ça une frappe de moineau dans le football. C'est-à-dire que le gars, il a le temps, normalement, d'aller prendre une douche, une photo, de revenir et de l'arrêter.
Mais est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron s'en est rendu compte ou qu'il pense qu'il a été extraordinaire?
Moi, je pense qu'il a été extraordinaire. Ça fait 10 ans que ça dure.
C'est vrai. J'aurais dû y penser.
C'est un spectacle pour gagner du pognon pour les pièces jaunes, c'est chouette.
Oui, vu comme ça, effectivement.
C'est comme nous, hein. On fait seulement de ne pas savoir pour faire gagner 300 euros.
Exactement.
Eh ben tiens, on va voir si vous faites bien semblant de pas savoir sur la question suivante pour Monsieur Verdun. Une question historique. Monsieur Verdun habite Marseille, ça fait 2 villes en une seule phrase. Ben un peu d'ailleurs comme la question qui vient, puisque je vais vous demander quel célèbre Picassien est mort à Tunis.
Saint-Louis.
Saint-Louis, excellente réponse d'Olivier Bellamy. Expliquer
la question déjà.
Ben, c'était Louis IX, c'est Saint-Louis. Et alors, Picassier, je ne suis pas sûr de connaître.
Ça veut dire qu'il est né à Poissy.
Ah, voilà.
Ah, j'allais dire
à
Pise.
Mais je savais, comme je suis allé. Comme je suis un peu. Comme je suis très proche, la Tunisie est dans mon cœur. J'y suis allé très souvent. Je savais que Saint-Louis était mort à Tunis.
Louis IX, Saint-Louis est effectivement mort à Tunis.
C'est pas l'anniversaire de sa mort, alors?
Non, c'est l'anniversaire de sa naissance. Ah. Il était né un 25 avril, le 25 avril 1214. Hein, c'est donc il y a
ça date.
810 ans pile aujourd'hui. Et il est né à Poissy. Il était poissard. Enfin, pas poissard, ouais. Pardon.
Il était poissonnier.
Picassier, c'est comme ça qu'on doit dire.
Il y a quand même l'origine qui veut dire poisson. Il y a la racine.
Picassier, ouais. Effectivement, ce sont les habitants de Poissy. Oh.
Et
le plus célèbre des Picassiers morts à Tunis. Bravo, monsieur Bellamy, c'est effectivement Saint-Louis.
3h, 4h30, les grosses têtes sur RTL, Laurent Ruquier.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Nous voilà partis pour le Calvados. C'est Catherine qui patiente là-bas pour jouer aux fake news. Bonjour Catherine.
Bonjour tout le monde.
Catherine Letouze, c'est votre...
Ah, non, Letouzé.
Letouzé, pardon.
Ah, on se disait aussi, ouais.
Vous l'avez échappé belle. Mondeville, c'est pas très loin de d'où ça, Mondeville.
De Caen.
De Caen, très beau. Dans le Calvados, tout est près de Caen, hein, en même temps. Ouais. Qu'est-ce que vous faites à Mondeville, Catherine?
Ben, j'habite à Mondeville et je travaille à Caen.
À Caen. Qu'est-ce que vous faites à Caen, alors?
Ben, je rentre à Mondeville.
Ben, voilà. J'ai fini mon boulot, voilà.
Bonne question. Il faut leur arracher les mots.
Ah, non, hein.
J'ai un boulot ici, moi, alors.
Peut-être agent secret.
Qu'est-ce que vous faites, Catherine?
Non, non. Presque. Non, je suis aide-soignante à domicile.
Aide-soignante à domicile, mais pas à votre domicile, à vous, si j'ai bien compris.
Non, voilà, je vais voir toutes les personnes qui ont besoin
dans les lits de camp. Voilà. Vous allez en tout cas, Catherine, et c'est tout le mal que je vous souhaite, partir dans un château 5 étoiles à l'Asso Espa à Saint-Cyprien. C'est le château de l'île de la Lagune qui vous attend. Je dis château, relais château. Hein. C'est pas un château, mais c'est un relais château. Un petit coin de paradis, hein, sur cette île privée, entourée par la verdure, les palmiers, les eaux de la Lagune. Évidemment, une suite vous sera réservée, des petits salons du jardin, une table au restaurant gastronomique, une escapade intimiste. Vérifiez tout ça sur hôtel-illagune.com et vous rêverez déjà à votre séjour, Catherine. Enfin, ne rêvez pas trop dans un premier temps. Il faut évidemment identifier la vraie info parmi les fake news. Vous êtes prête?
Oui.
On commence par monsieur Roman Dodwick.
2 millions de bouteilles de Perrier avec de la matière fécale. Oh. Après Perrier vert et Perrier bleu, Nestlé annonce le lancement du Perrier marron.
C'est dégueulasse.
Christophe Beaugrand.
Duralex en redressement judiciaire. Le PDG belge a déclaré: avec le recul, faire des verres incassables, c'était vraiment une connerie, puisqu'on n'en rachète jamais.
Valérie Mérès.
Emploi fictif. La cour d'appel a confirmé hier la culpabilité de François Fillon. Pénélope Fillon a réagi au verdict en déclarant: je ne comprends pas, pourtant je n'ai rien fait.
Roselyne Bachelot.
Yesterday in London,
Five horses escaped from a military stable, galloping the city center of the capital, burning traffic lights and priorities. They caused several accidents and left five injured.
Est-ce que tu peux retirer le chewing-gum que t'as dans la bouche, s'il te plaît?
Ça veut dire point noir. Ça veut
dans
dire
le
point
texte,
noir.
Hein, c'était du portugais que vous venez d'entendre. Olivier Bellamy.
Ah, on fait des émissions bilingues.
Alors, règlement de compte. N'ayant pas apprécié comment il s'était parlé tout seul, Kenji Girac a voulu se faire justice lui-même.
Florian Gazan.
2 millions de bouteilles de Perrier détruites après la découverte de matière fécale. Le type qui a pété dans l'eau pour faire les bulles avait une gastro, il court toujours.
C'est dégueulasse. Alors, qui a dit la vérité?
J'adore. Bon,
ça, c'est facile, hein, quand même, Catherine.
Bah. C'est super dur parce que vous partez tous d'événements qu'on.
Ah, bah oui, c'est la règle du jeu.
Alors, faites par élimination, alors, Catherine. Voilà.
Alors après, je parle pas anglais.
Ah oui,
j'ai vraiment un accent pas bon.
Ah, mais comment moi, Roselyne. J'ai un accent pas bon?
Non, mais si vous avez un accent pas bon, vous avez dû comprendre Roselyne.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, moi, je parle vraiment très très mal. Ah, par contre, j'ai cru comprendre qu'elle a raconté l'histoire des chevaux là qui s'étaient échappés hier à Londres.
Oui.
Je partirais plus sur celle-là, quoi. Mais voilà.
Is it the true information?
Yes.
Oh.
Are you sure?
Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Do you speak
the suspense?
Are the true news?
Ouais. Do you speak moustache?
Ils font pas première langue chez les ministres.
Donc vous y allez direct sur Roselyne alors, hein, Catherine.
Ça m'a bien intéressé, hein, tout ce qu'ils ont raconté. Le truc du Perrier, j'ai bien entendu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Sur Alex, ça oui. va pas.
Non, il n'y a rien qui va, ma brave dame.
Il n'y a rien qui va, même en Angleterre. Et effectivement, c'est bien Roselyne Bachelot qui avait...
Congratulations.
Alors, on se moque de mon accent,
mais, non, c'était pas
mais
mal.
Tout le monde a compris ce que j'ai raconté quand même.
Bah oui, il y a 5 chevaux qui se sont échappés dans Londres et qui ont quand même causé 5 blessés, left 5 injured, ça veut dire blessés, hein. 5 personnes blessées, ils ont brûlé les feux rouges, ça, on comprend, oui. Hein, les feux,
bah oui,
on leur a pas appris à s'arrêter. Hein. Ou alors il fallait peut-être que le petit bonhomme soit remplacé par un petit cheval vert ou un petit cheval rouge,
ça, oui,
pour qu'ils comprennent.
Mais enfin, est-ce que les chevaux conduisent à gauche ou à droite?
Je sais pas, mais en tout cas, on appelle bien les gardes, les horse guards.
Horse guards.
Ben, ils ont pas bien gardé les chevaux, les horse guards. Mais c'était la vraie info, Catherine. Vous partez à Saint-Cyprien pour le reste.
Évidemment. C'est loin de la Normandie, là. Hein. Saint-Cyprien, c'est loin de la Normandie.
Plaignez-vous.
Juste pour ça, vous allez y aller en cheval, voilà.
Vous préfériez aller en vacances à côté de chez vous?
Non, je suis super contente.
Je reviens quand même sur les autres infos. Oui, il y a bien un problème avec des bouteilles de Perrier, mais quand même, il faut dire bravo à Perrier d'avoir rappelé les bouteilles.
Enfin, encore heureux.
Bah oui, merci. Ouais,
c'est la moindre des choses.
Mais en tout cas, il n'y a pas de Perrier.
Après avoir mis du caca dans les bouteilles, heureusement qu'ils ne les vendent pas.
Ils ont mis une étiquette dessus, haut de la Seine pour les JO, ça passait tranquille.
Oh, il paraît qu'il y a du caca dans toutes les boissons.
Oui, caca colac même.
C'est la prochaine fois qu'on demandera un Perrier tranche.
Un Perrier rondelle surtout. Quelle horreur.
Et puis pour Duralex, c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y avait pas pensé à ça. Au fond,
c'est la plus mauvaise marque possible.
Il
ne
faut
en fait.
Jamais faire des choses trop solides.
Bah, l'obsolescence programmée, voilà. C'est bien à ça que ça sert.
Ça s'appelle l'obsolescence programmée. Et croyez-moi, ici aux grosses têtes, j'en sais quelque chose.
Moi, je vois pas de quoi vous parlez.
Les grosses têtes de nuit sur RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed.
On sait très bien traiter un diabète, mais le prévenir, on est très nul, alors que ça devrait être l'objectif principal, c'est d'éviter que les Français deviennent diabétiques. Le premier conseil, c'est l'activité physique. On vous en parle régulièrement, mais c'est démontré, c'est scientifique. Faites du sport, bougez-vous, c'est plus fort que des médicaments pour prévenir le diabète.
Les conseils santé du docteur Jimmy Mohamed, c'est dans Ça va beaucoup mieux, tous les jours à 8h35.
Allez, une question pour Mme Bachelot, puisqu'elle réclame.
Une question musicale.
Elle réclame depuis tout à l'heure.
Et puis je vais me planter, ça va être bon.
Elle piaffe. Une question facile. Elle piaffe, elle est comme Aya Nakamura. Bon, ma question concerne une œuvre célèbre que je vous demande d'identifier, Mme Bellamy.
Pas encore.
Ah non, pas encore. Non,
on est juste fiancés.
Oh, j'imagine le couple.
Mais nous n'avons jamais couché, pas encore.
Oh, les soirées.
Alors que vous et Madame Machelot, d'après ce qu'on raconte, hein,
vous avez sortir de l'hôtel Montaigne.
Oui, oui, oui.
Ah oui, c'est vrai qu'on a
l'hôtel Montaigne.
Oui, mais enfin, on est allé prendre un verre dans un hôtel.
On dit ça.
Pardon, mais la chambre, vous l'avez louée une heure, on le sait.
Hein, les Day Use Hotels, on les connaît.
Et c'était largement suffisant.
On allait voir un ballet, Madame Bachelot et moi, donc voilà, on a pris un petit verre dans un hôtel en face.
Il n'y a
pas de mal à ça, quand même.
Mais non. Et alors, c'était bien.
Un ballet dans le...
On connaît le contenu du slip RTL.
Oh, le niveau, aujourd'hui.
Allez, posez-nous votre question.
Vraiment.
Bah, écoutez, assumez, vous avez une maîtresse, vous avez une maîtresse. Bon, voilà. Oui.
Non, écoutez, je serais très fier d'avoir Madame Bachelot comme...
Comme bon ami. Il arrive même pas à trouver le mot. Il arrive même pas comme...
Vous pouvez dire que c'est un plan...
Comme maîtresse en viager.
Non, mais pour le kiff, c'est pas mal. Alors, le ministre.
Pour Florent Barbera, qui habite Conche-en-Ouche, dans l'Eure, pouvez-vous retrouver donc cette œuvre célèbre qui fut modifiée, puisqu'au début, le héros Alvaro mourait, se suicidait. Ça, c'était dans la première version. Puis finalement, comme tout le monde...
La force du destin.
La force du destin de
Verdi.
De Verdi. Bonne réponse.
J'adore la façon dont Rosine répond.
Pourquoi la force du destin de Verdi.
Elle a écrit un livre sur lui, c'est normal.
Bande de ploucs.
Et parfois elle commence par ça ne serait pas.
Ah oui, j'adore quand elle fait ça.
J'aurais même préféré.
La force du destin de Verdi.
J'eus préféré que vous me disiez même la forza.
La forza del destino.
Voilà.
C'est du portugais.
Ah ben je comprends mieux.
La forza del destino.
Tout le monde connaît. Il y a une caractéristique, c'est que l'ouverture se joue après la première scène et non pas au début de l'œuvre.
Ah, dingue.
Ah, c'est génial.
Mais comment ça, expliquez-nous.
Mais la scène où le dénommé va tuer Alvaro va tuer le père de sa fiancée se joue avant l'ouverture.
Ah, il y a un pré-générique.
C'est ça.
D'accord.
J'en ai un extrait de La Force du Destin.
Exactement ce qu'a fait Bélanie.
Oui.
C'est pas le même extrait.
C'est pas l'exemple le plus significatif. Enfin, oui.
On a pris ce qu'on avait. Hein.
Mais alors c'est quoi, c'est une pièce musicale?
C'est bien d'en avoir.
Mais c'est vrai qu'au départ, tout le monde mourait à la fin dans cet opéra.
C'est au départ ou à la fin?
Non, mais... dans la première version, dans le scénario original de cette œuvre, tout le monde, absolument tout le monde mourait à la fin, y compris le héros Alvaro,
qui
se jetait du haut d'une falaise pour être certain qu'il ne resterait plus personne sur scène. Verdi a écrit à son librettiste, parce que Verdi, il a fait la musique, mais il y a quelqu'un qui écrit évidemment l'histoire. Nous devrions revoir le dénouement et trouver un moyen d'éviter tous ces cadavres. Et de nos jours, c'est donc la version revisitée qui est jouée.
Alors, est-ce que vous savez, Laurent, que c'est un opéra qui porte malheur? Je suis sûr que Roselyne le sait, parce qu'un baryton au Metropolitan de New York qui s'appelle Leonard Varenne, grand baryton, est mort en pleine représentation de La Force du Destin. Et depuis, c'est un opéra qui porte malheur. À chaque fois qu'on le monte, il y a toujours quelque chose qui se passe de
Ah, mais donc tout bizarre. Le monde meurt à la fin, non seulement dans l'histoire,
les gens qui sont... mais en vrai. On va apprendre que Kenji Girac l'écoutait dans sa caravane.
La Forza del Destino, en tout cas, effectivement, c'est bien un opéra de Verdi qui a été modifié parce que c'était trop triste de voir mourir tout le monde à la fin. Si en plus les chanteurs eux-mêmes meurent, alors là, vous en rajoutez une couche, monsieur Bellamy. Mais bravo parce que vous avez apporté une petite précision à l'excellente réponse de ma fiancée Roselyne. Alors,
c'est votre mille, ministre I'd like to fuck.
Pour Marilyn Loom, maintenant, qui habite Soignol en Brie, je vais vous citer deux pianistes, deux jeunes, ils sont pas vieux, quoi. Florian Noack, je sais pas si vous connaissez, monsieur Bellamy, me dites pas oui, bien sûr. Oui. Et Nikolaï Luganski, ça vous dit quelque chose?
Oui, évidemment.
Bien sûr. Nikolaï Luganski, grand pianiste russe. Grand pianiste.
Bon, alors ces deux pianistes viennent de sortir un album avec un point commun sur cet album, parce qu'il paraît que c'est une nouvelle marotte, un nouvel exercice, très prisé au 19e siècle.
Ce sont des transcriptions.
C'est-à-dire?
Florian Noack a joué des transcriptions Et je crois que Nikolaï Louganski a joué aussi des transcriptions de, par exemple...
Vous connaissez celle de Liszt pour Wagner.
Franz Liszt, voilà. Franz Liszt a transcrit des œuvres pour Wagner.
Qu'est-ce que ça veut dire, transcrire?
Eh ben, transcription, par exemple, vous avez une œuvre pour orchestre, par exemple...
La bande d'Isolde et
Tristan Isolde et Liszt. Comme à cette époque-là, il n'y avait pas de disque, si vous voulez... Pour connaître les œuvres, et quand on n'avait pas tout un orchestre et des chanteurs à sa disposition, mais qu'on avait un piano, eh bien on avait quelqu'un comme Franz Liszt qui jouait, qui faisait une transcription de l'œuvre et qui jouait pour un seul piano.
C'est une version piano, en fait.
C'est une traduction.
Voilà, il suffisait de dire, c'est la version piano.
C'est un arrangement, si vous voulez.
Un arrangement.
Voilà.
Et ben voilà, écoutez.
Une traduction.
Une cover, quoi. C'est la version piano.
C'était un peu long, non?
Oui. Pour dire un truc pas compliqué, oui, c'est très long.
C'est-à-dire que je m'attends, je cherche quelqu'un qui peut faire une transcription de ce que vous venez de dire. Mais c'est une bonne réponse d'Olivier Bellamy. On a un extrait. Oula. Ça, c'est une transcription, par exemple.
Oui, mais attendez, attends.
Ça démarre pas fort, hein.
C'est...
Je suis le roi de la jungle.
C'est une transcription du livre de la jungle.
Oui. Je suis pas fou, c'est ça.
Bravo, Romain.
Est-ce que c'est une bonne réponse?
Et oui, écoutez, écoutez.
Bravo. Oh, whoopidou. Je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, danser comme vous, tout. Un singe comme moi, pourrais-je croire.
Je suis pas sûr que ce soit utile finalement de faire une transcription, non. Parce que c'est quand même mieux l'original, non?
Oui.
Ah bah oui. Ah bah oui.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour s'appelle Le crépuscule d'un dieu. C'est signé Michel Canesi, qu'on aura au téléphone dans un instant. Ou Canesi, je veux dire Canesi.
Canesi, oui.
Vous le connaissez mieux que moi, oui. monsieur Bellamy, puisque c'est vous qui m'avez conseillé.
C'est mon dermatologue. J'espère qu'il va pas me trahir.
Comment ça, c'est votre dermatologue?
On parlait de points noirs au début de l'émission, voilà. Voyez-vous.
Et les dermatos sont les spécialistes des maladies vénériennes.
Voilà.
C'est
merci,
justement.
Roselyne.
C'est justement le sujet du livre. Ah, puisque
les maladies vénériennes?
Non, le crépuscule d'un dieu, c'est le crépuscule de Nouraïev, qui, on le sait, est mort du sida, et c'est un sujet grave et sérieux. Il était le médecin qui a accompagné Nouraïev jusqu'à la fin, le docteur Canesi, et il signe ce livre qui raconte les dernières années de Nouraïev, depuis évidemment le moment où Nouraïev a rencontré Michel Canesi jusqu'à sa propre mort à Nouraïev. C'est un livre évidemment bouleversant qui raconte comment jusqu'au bout Nouraïev a voulu être à la fois danseur et chorégraphe, exercer son art jusqu'au dernier moment. On aura le docteur Canesi dans un instant au téléphone, il raconte tout ça dans Le crépuscule d'un dieu chez Plon. Et d'ailleurs, parmi les dernières volontés donc de Nouraïev, il y avait le fait qu'il souhaitait reposer à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et ce qui est assez incroyable et amusant, c'est cette phrase qu'il aurait prononcée à Michel Canesi, à son docteur Nouraïev. Évidemment, il se parlait en anglais, il ne parlait pas en français. Ce qui est d'ailleurs drôle dans le livre, c'est que le docteur donne les deux versions, en anglais et la traduction ensuite. Et Nouraïev a dit « Please, not too close to Serge Liffard », ce qui veut dire « S'il vous plaît, pas trop près de Serge Liffard ». Quel était d'ailleurs le point commun entre Serge Liffard et...
Ils ont été tous les deux directeurs de la danse à l'Opéra de Paris.
Oui. Chorégraphe et danseur, les deux.
Et danseur, oui.
Et ils ont tous les deux dansé le Spectre de la Rose.
Et c'était un ex, ils étaient ensemble?
Ah non. Ils se détestaient, j'imagine.
Bah oui. Ça. Mais je sais pas... Il avait été directeur de la danse pendant l'occupation, je crois. Il y a eu une histoire un peu comme ça.
Qu'est-ce que vous vouliez dire? Parce que vous êtes arrêté en milieu de phrase.
On avait l'impression qu'il avait une oreillette et qu'on lui disait un truc, mais il n'en a pas. C'est très curieux.
Ou alors qu'il avait besoin.
Simplement ce qu'ils appellent des absences. Tu verras ça quand tu auras mon âge. Petit con.
Bon, je vais vous accorder la bonne réponse, en tout cas. Bravo, Olivier Bellamy. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Bonjour, Michel.
Et c'est vrai que Michel...
Bonjour, Olivier.
Vous racontez cette dernière volonté. Et c'est vous, d'ailleurs, qui devez expliquer au conseiller juridique ce que ça voulait dire et pourquoi, parce que lui ne connaissait pas manifestement Serge Liffard, pourquoi, effectivement, Nouraïev ne voulait pas être trop près de son ennemi, enfin, un de ses anciens ennemis.
Oui, écoutez, j'ai relaté cette anecdote parce que elle démontre un côté assez méconnu de la personnalité de Rudolf Nouraïev, c'est son humour, son sens de l'humour. parce que voilà, quelques jours, quelques semaines avant sa mort, juste après la fameuse Bayadère du 8 octobre 92, ah ouais, qui avait ému tout le monde, parce que Rudolf a commencé sa carrière à Paris en 61, il est devenu une star du jour au lendemain en dansant la Bayadère, et il termine sa vie en créant une Bayadère sublime. Je suppose que Madame Bachelot a dû, oui, la voir, et vous autres, absolument, aussi probablement. Ouais. Voilà, et terminer sa vie comme ça, ça fait mentir un peu Monsieur Mitterrand, qui disait que chaque vie d'homme est une symphonie inachevée, et celle de Rudolf, manifestement, était une symphonie achevée, puisqu'il a fait, il nous a donné en cadeau avant de partir cette merveille absolue. Mais je voulais vous raconter l'anecdote.
C'est d'ailleurs, pardon, je vous interromps, c'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres du livre, hein, que vous nommez ainsi, toutes les symphonies ne sont pas inachevées.
Eh ben c'est... oui, mais pour Nourayev, on peut considérer qu'elle a été achevée. Et le jour, je vous raconte l'anecdote parce que c'est vrai qu'elle est très drôle. Rudolf, quelques temps avant de mourir, a fait venir ses avocats des États-Unis pour régler ses affaires. Et l'avocat vient me voir et me dit, écoutez, est-ce que vous pourriez dire à Monsieur Nourayev où il souhaite être enterré. Je dis, écoutez, monsieur, je suis médecin. Si vous avez votre médecin qui vient dans votre chambre en vous demandant où est-ce que vous voulez être enterré, je sais bien qu'on n'a plus beaucoup d'espoir, mais c'est quand même pas à moi de faire ça. Vous avez la possibilité de le faire. Je vous donne les 3 cimetières à Paris qui sont dignes d'accueillir Monsieur Nourayev, à savoir le Père Lachaise, le cimetière du Montparnasse et le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors il rentre dans la chambre, il ressort quelques minutes après et il me dit qui est, où est Serge Liffard. Je lui dis, je lui explique que c'est un ancien directeur de l'Opéra de Paris, un danseur, un chorégraphe. Et je lui dis, mais pourquoi vous me parlez de Serge Liffard? Parce que Nourayev m'a dit « not too close to Serge Liffard » à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et donc, si vous voulez, moi, malgré la situation, je dois dire que j'ai éclaté de rire, parce que je me suis dit, mon Dieu, Rudolf, quel sens de l'humour. Même dans ce moment dramatique, un peu tendu, il a trouvé le moyen de faire un bon mot. Voilà.
L'autre point commun que n'a pas réussi à dire Monsieur Bellamy,
parce qu'il a eu une absence,
c'est que quand même Serge Liffard était d'origine russe, en tout cas ukrainienne, quand même. C'était ça.
On ne faut pas confondre.
Alors, on disait danseur russe à l'époque.
Effectivement, et figurez-vous que j'ai découvert ça récemment, parce que je suis retourné me recueillir sur la tombe de Nourayev pour lui dire que j'allais écrire ce livre, ce récit qui relate 11 années d'amitié, de complicité et on peut presque dire d'amour, parce que sinon c'est une grande histoire d'amour, même s'il n'y a pas eu d'amour au sens physique. Et en allant sur la tombe de Serge Liffard, je voulais bien m'assurer qu'elle était bien loin de celle de Rudolf, ce qui est le cas, donc là ses volontés sont respectées. J'ai vu qu'il était né à Kiev. Donc c'était déjà presque les germes du conflit qui étaient là des années avant.
Et Serge Liffard a été naturalisé français, ce qui n'est pas le cas de Nourayev.
Non, Nourayev avait finalement la nationalité autrichienne. Peu de gens le savent, mais il était autrichien de nationalité.
Et vous racontez effectivement ces années pendant lesquelles vous étiez médecin confronté à l'épidémie, parce que c'était une épidémie terrible dans ces années 80-90 du sida, et effectivement vous avez accompagné dans toutes ces dernières années ce chorégraphe à qui vous avez dû annoncer d'abord dans un premier temps effectivement qu'il était séropositif, ensuite qu'il était atteint du sida, des choses difficiles, et là il vous a répondu aussi une chose incroyable quand vous lui faites cette annonce.
Quand je lui fais cette annonce, je vais vous dire qu'on était au début des années 80, on venait à peine de découvrir le virus, enfin tout ça est très... On était dans l'œil du cyclone, vous voyez, avec cette histoire. Et Rudolf me dit, on va faire un pacte, vous gérez ça, et moi pendant ce temps-là, je vais continuer à travailler. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que Rudolf a vécu une bonne dizaine d'années avec le virus et sans les traitements que nous avons heureusement aujourd'hui, mais il n'a pas eu la chance de les avoir, puisque les traitements sont arrivés en 96 et qu'il est décédé en 93, donc 3 ans avant. Mais cette espèce de pacte que nous avions tous les deux a très bien fonctionné pendant toutes ces années, et ça lui a permis de nous laisser tous les trésors qu'il nous a laissés au répertoire de l'Opéra de Paris, entre autres.
Le crépuscule d'un dieu, c'est le crépuscule de Nouraïef, le dieu de la danse à cette époque, c'est signé Michel Canesi, docteur, j'ai envie de vous appeler docteur. Est-ce que ça vous a posé un problème de conscience? Parce qu'au fond, quelque part, vous brisez le secret médical aussi avec ce livre.
Alors, d'abord, j'ai respecté sa volonté parce que Rudolf a voulu que les choses soient claires dès sa mort. D'ailleurs, si vous voyez le livre, il y a des photos à l'intérieur, vous avez la couverture de Newsweek, quand il est mort, enfin de Newsweek, et toute la presse a su que Nouraïef était mort du sida.
Oui, parce qu'à l'époque, les personnalités ne le disaient pas, faut bien
voilà,
le rappeler.
Oui, ne le disaient pas. Ouais, mais vous savez, il ne voulait pas le dire pour une raison simple, c'est que à l'époque, l'entrée des personnes séropositives était interdite aux États-Unis. Il n'y a que Barack Obama qui a levé cette interdiction.
Hein. C'est vrai.
Donc, et c'est récent. C'était pour ça qu'il ne voulait pas être considéré comme un malade, il voulait être considéré comme le grand artiste, immense artiste qu'il était. Et j'ai attendu plus de 40 ans pour écrire ça, parce que je me suis dit que je tenais à livrer ce témoignage pour l'histoire. Parce que c'est pas une biographie, c'est vraiment...
Votre rencontre, votre amitié, effectivement, voilà. Vous lui précisez d'ailleurs qu'il n'était pas sexuel, même si à un moment donné, il essaie de vous draguer, vous dites, il vaut mieux que je sois un ami et un médecin plutôt qu'un amant, vous lui dites.
Bah, je lui dis ça, toujours avec humour pour faire passer la chose, je lui dis, je vais pas vous chanter vers du catalogue du Don Juan de Mozart en disant...
Jamais pendant le service.
Mais vous étiez quand même un tout jeune médecin, puisque là, c'était il y a 40 ans, vous étiez...
Vous aviez une trentaine d'années.
Ouais. Exactement, j'avais 30 ans quand je l'ai rencontré en 1982, je venais d'avoir 30 ans, tout frais moulu sorti.